Vous êtes avec SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Jean-Claude Antoine, qui est très connu dans le monde de la presse mauricienne et qui est de passage en Australie. Jean-Claude Antoine, bonjour et bienvenue à vous.
Merci de m'accueillir.
Peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent, la plupart des francophones, racontez-nous votre parcours dans le monde de la presse mauricienne. Vous avez débuté quand et où ?
Il y a très très longtemps, peut-être trop longtemps de ça. J'ai été fonctionnaire pendant des années. Ouais. Je m'occupais d'organiser des activités culturelles. Et puis un jour, et en même temps je faisais un peu de télévision. Et un jour, j'ai voulu changer de carrière. J'ai écrit à un directeur de journal en lui disant que j'envisageais de faire autre chose. Et il m'a téléphoné me disant « demain 10h ». Donc ça, c'était en 83, je crois. Donc, ça continue. Et quand est arrivé l'âge de la retraite, je suis allé lui dire que légalement, je devais arrêter. Il m'a dit, je te pose une question, tu vas décider après de ce que tu feras, de ta réponse. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire chez toi ? Reste là, fais ce que tu sais faire. Donc, je continue à faire ce que je crois savoir bien faire. Voilà le résumé très succinct d'une longue carrière, finalement, parce que je suis un dinosaure de la presse mauricienne, en plus.
Et donc, vous travaillez pour le week-end ?
Je travaille pour le week-end.
Le Mauricien ?
Je travaille pour le week-end qui fait partie du groupe Le Mauricien. Le Mauricien, c'est l'un des plus vieux journaux de Maurice. Il y a des créés par Raoul Rivette, il y a des années de ça, des décennies même, on peut dire.
Et cette presse mauricienne a une histoire extraordinaire. C'est une presse francophone qui existe depuis...
C'est une des plus anciennes presses francophones du monde, qui, malgré le fait que Maurice ait été colonisé par les Anglais pendant 150 ans, a tenu, parce que nous publions essentiellement
en français,
il y a de plus en plus maintenant des colonnes qui sont réservées à l'anglais, mais en substance, la presse mauricienne est toujours francophone, on ne sait pas comment, pourquoi.
Jean-Claude Antoine, on va parler de l'actualité qui domine l'île Maurice ces jours-ci. L'île Maurice a récupéré la souveraineté des îles Chagos, dont fait partie Diego Garcia. Vous pouvez nous expliquer un petit peu cet accord ?
Quand les Mauriciens ont voulu acquérir l'indépendance dans les années 60, une des conditions que le gouvernement colonial anglais a imposées, c'était de céder l'île de Diego Garcia, l'archipel de Diego Garcia, l'archipel de Chagos, dont fait partie le Diego Garcia, qui allait être transformé dans une base militaire gérée par les Américains pour la protection de l'Occident contre, à l'époque, c'était la guerre froide, c'était donc les Russes.
Contre les Russes et les Chinois.
Maintenant. On est toujours dans la même position finalement, mais on a changé de vis-à-vis. Et donc, pour ce faire, on a déporté toute la population qui habitait sur les îles de l'archipel. Certains étaient envoyés à Maurice, d'autres aux Seychelles. Et il y a eu une longue...
Et d'autres sont partis en Grande-Bretagne.
Oui. Non, mais après, la Grande-Bretagne est arrivée après. Parce que quand les Chagossiens commençaient à revendiquer leurs droits, quand ils commençaient à se faire entendre, donc une partie... Les Anglais, au fur et à mesure, ont cédé en donnant une compensation qui a été à l'époque gérée par le gouvernement mauricien, en donnant de la nationalité à quelques-uns. Bref, à essayer de régler le problème parce qu'on commençait déjà à dire que les Chagossiens étaient devenus les Palestiniens océaniens parce qu'ils étaient déportés de chez eux pour aller ailleurs. Le combat est devenu politique. Les partis politiques mauriciens sont rentrés dans la bataille, ont soutenu les Chagossiens. Et ça a été une très longue bataille au niveau juridique, au niveau de la communication, qui a fini par obtenir un vote aux Nations Unies, où une majorité a réclamé que la Grande-Bretagne rende à Maurice, ce qu'elle revendiquait depuis des années, sa souveraineté sur les Chagos.
Est-ce qu'il va falloir l'autorisation des Anglais pour pouvoir aller visiter les îles Chagos à l'avenir ?
J'ai lu dans un journal australien un magnifique papier qui expliquait tout ça. Il posait la question, est-ce que les Mauriciens ne sont pas en train de passer du statut de propriétaire à celui de locataire ? Parce que le bail qui a été signé est un bail de 99 ans, renouvelable, sans condition. et qui permet à l'Angleterre, donc aux États-Unis à travers l'Angleterre, donc d'user du Diego Garcia jusqu'à la prochaine génération. Donc c'est la question de savoir, est-ce que nous avons tout récupéré, je te pose, mais à cela, et beaucoup le disent, il valait mieux faire ça que ne rien avoir du tout.
Et vous, personnellement, vous voyez l'avenir des Chagos comment ?
Écoutez, je crois que c'est une question impossible à répondre pour le moment parce que les choses sont en train de se mettre en place. Il y a un accord avec une location que le gouvernement mauricien va toucher. Il y a des fonds prévus dans cet accord qui vont être mis à la disposition des Chagossiens. Mais qui va gérer tout ça ? Comment cela va se faire ? C'est un peu compliqué à le dire jusqu'à maintenant. Mais je crois que il y a de l'espoir. Je crois que si chacun y met du sien, on va pouvoir faire quelque chose en respectant les conditions de l'accord qui sont de Diego Garcia en dehors du contrôle mauricien, certainement. On récupère la souveraineté ailleurs, mais pas sur Diego Garcia. Mais ce qui... Je reviens à l'article dont je vous parlais, ce qui permettait à ce journaliste australien de dire qu'avec la cession, la reprise des Chagos par Maurice, le royaume impérial britannique qui ne se couchait jamais sur le monde est arrivé à terme.
Jean-Claude Antoine, parlons des dernières législatives, 6 mois après les élections, je crois que c'est 6 mois maintenant. Oui. Comment se porte le pays ?
Le pays se porte comme il se porte après une élection.
Ça prend du temps.
Il faut résumer. Il y a eu 10 ans d'un gouvernement dirigé principalement par le MSM qui a fait des choses contre lesquelles tout le monde s'est élevé, etc., etc. Et ils étaient tellement persuadés de récupérer un troisième mandat qu'ils ont, on revient à Diego, qu'à la veille de la proclamation des élections, le gouvernement d'alors a annoncé un accord sur Diego Garcia, etc., etc., pour faire partie des choses qu'il offrait aux Mauriciens. Donc le Mauricien, vous le savez aussi bien que moi, est capable d'adorer un gouvernement, un parti politique, est capable de s'en débarrasser, mais vraiment en ne laissant rien derrière. Donc on a eu en novembre dernier 60-0, ce qui veut dire qu'aucun des candidats de leur précédent gouvernement n'a été élu, même le Premier ministre. Donc c'était une... Mais le problème est que pendant ces 10 ans précédents, il y a eu au niveau financier des choses faites dont on découvre maintenant les conséquences et que la situation, les Mauriciens ont voté plus pour contre que pour l'actuel gouvernement. Mais l'actuel gouvernement était obligé de prendre des mesures financières qui vont faire très mal et qui commencent à entamer sa popularité.
Et cette histoire de landslide, ça arrive souvent à Maurice, je crois...
Trois fois depuis l'indépendance, oui.
C'est une bonne chose.
C'est dû aussi au système politique. C'est dû au système électoral, qui est the first past the post.
Comme en Grande-Bretagne.
Comme en Grande-Bretagne, pour les derniers 10 ans du précédent gouvernement, ils ont remporté l'élection avec 37% seulement des voix. Ce qui a permis de diriger pendant 10 ans. Le problème à ce niveau-là, c'est que tous les partis politiques, quand ils sont dans l'opposition, disent qu'il faut absolument en finir avec ce système qui date des années 68, etc., etc. Mais aussitôt qu'ils sont arrivés au pouvoir, et qu'ils arrivent au pouvoir grâce à ce même système, ils oublient. Donc on se retrouve actuellement dans la même situation. On va s'en occuper plus tard. C'est le jeu politique.
Et sur le plan économique et social, comment ça...
Écoutez, sur le plan économique, ça va mal parce que les répercussions de toutes les mesures qui sont prises aux États-Unis, etc.
Les tarifs,
c'est répercuté doublement parce que nous dépendons de tout. Mais je commence à parler australien. Mais nous dépendons de tout ce que nous des autres pays. Donc il faut s'ajuster, c'est compliqué. Et un avocat qui était un observateur politique avait dit que les élections seront gagnées, mais que les premières mesures que le gouvernement aura à prendre seront tellement impopulaires qu'il se demande s'il tiendra longtemps. Nous sommes arrivés à cette période, le budget est présenté vendredi, le budget national est présenté, et déjà on dit qu'il sera un budget très très dur. Donc il va falloir suivre. Peut-être que dans 5 ans nous aurons le quatrième 60-0.
L'île Maurice dépend beaucoup du tourisme. Oui. Et je vois que dans la presse, on parle beaucoup de la baisse des arrivées. Oui. Les marchés traditionnels sont en berne. Il y a une raison quelconque
Il y a plusieurs raisons. C'est probablement les mesures prises ailleurs qui incitent les voyageurs des longs vols à ne plus voyager, notre marché principalement européen. Donc les gens réfléchissent beaucoup maintenant avec la montée des prix des billets, etc. etc.
Mais les gens vont vers les Seychelles, les
Sri
Lanka,
mais parce que le précédent gouvernement, c'est un peu une mentalité moquienne. On croit que tout ce qu'on a va durer éternellement. On a cru que l'accord sucrier serait éternel. Mais là, à un moment donné, il est arrêté. Donc, on n'a pas fait autant d'innovations sur le marché pour essayer de le captiver davantage, etc. Alors que les Seychelles, les Maldives, ce sont et les Ceylan, qui sont nos principaux rivaux, eux, travaillent dessus. Donc, tout ça, on est en train de mettre en place maintenant une nouvelle politique pour essayer de récupérer. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et en attendant, l'industrie touristique ne se porte pas très bien.
Et sur le plan social, à Maurice ?
Sur le plan social, Maurice, comme Maurice, a toujours été. Il y a des heurts, il y a des questions qui remontent à beaucoup, beaucoup plus loin qu'on ne le croit, mais qui resurgissent de temps en temps. À chaque fois qu'il y a des élections, des petites tensions, etc. Mais ça fait partie de ce qu'on appelle le charme mauricien. On vit avec.
On parle du droit de vote, un droit de vote pour les gens de la diaspora.
C'est accueilli avec assez beaucoup de réticence de la part des Mauriciens qui se demandent de quel droit des gens qui n'ont pas vécu à Maurice, qui n'ont pas prosaïquement participé à des taxes, etc., etc., auraient le droit de venir. C'est une question qui fait débat. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Les avis sont très partagés sur la question. Mais il y a beaucoup de Mauriciens qui sont très, très, très réticents. Il y a beaucoup de Mauriciens de la communauté qui sont très, très d'accord pour cette mesure. C'est une question qui va sans doute faire beaucoup de débats à Maurice.
Dernier message, Jean-Claude Antoine.
Ben, je suis ravi de vous retrouver, vous êtes toujours là. Comme quoi les Mauriciens tiennent debout pendant très longtemps. J'étais ravi de vous voir les amis, et de voir que finalement nous sommes un petit pays, mais que l'Australie finalement à peu près... Les mêmes fondements que nous, finalement. Beaucoup, des gens venant de raisons différentes, obligés de se côtoyer et se découvrant de plus en plus, avec sans doute beaucoup de réticence au départ. Mais je crois que c'est la solution pour le monde de demain. Malgré ce que nous entendons venant d'ailleurs, moins de métissage, moins de partage, je crois que c'est la solution et par là.
Jean-Claude Antoine, merci à vous.
C'est moi qui vous remercie.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.